Bonjour à vous tous, là où vous êtes, ceux d'Haïti, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe. C'est un réel plaisir, un grand privilège de pouvoir vous adresser depuis ici, à Clermont. Et la température est très agréable. Aujourd'hui, nous avons une température de 79 degrés Fahrenheit. Et cet après-midi, nous allons avoir le plaisir d'avoir un baptême. C'est du côté de Tampa. Là, nous allons baptiser un couple. Il y a deux semaines de cela, il y avait un baptême. C'était juste ici. Un couple de Melbourne qui a été baptisé et maintenant qui font partie de la Melbourne congrégation. Et nous sommes une famille et Dieu prend soin de son peuple et Dieu continue à appeler des gens dans son église. Et nous sommes très heureux de ce qu'il fait. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous l'avez bien entendu dans les annonces, c'est le premier jour de l'année grégorienne 2022. Si vous étiez attentif pendant la semaine écoulée, la semaine de travail écoulée, il y a des gens qui étaient vraiment enthousiastes à propos de l'année, une année qui est l'année 2021, qui allait se terminer et ils ont vraiment hâte d'accueillir cette nouvelle année 2022. Pour certaines personnes, c'est que avec la nouvelle année, ça va apporter d'autres choses dans leur vie, ça va changer la course de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions, il y a beaucoup de gens qui font des plans et l'essentiel, c'est que les gens cherchent le bonheur. Ils aimeraient avoir le bonheur. Mais malheureusement pour eux, ils ne savent pas là où trouver le vrai bonheur. Ce matin, j'ai une question pour chacun d'entre vous. La question que j'ai pour vous, chers frères et sœurs, vous sentez-vous proche de Dieu? Vous sentez-vous proche de Dieu? Si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon, comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Vous savez, parfois, après avoir écouté un sermon édifiant, on a cette émotion en nous. On sent vraiment la présence de Dieu autour de soi. Parfois, quand on vient dans les assemblées, quand il y a des gens qui écoutent, quand ils écoutent les cantiques, ça les émeut. Et ils se sentent vraiment proches de Dieu. Et il y a des gens, quand ils prient, une prière à cœur ouvert, une prière vraiment fervente. Et maintenant, pour eux, la présence de Dieu est autour d'eux. Et d'autres personnes, quand ils étudient la Bible, ils trouvent des choses, c'est pour eux, c'est très inspirant. Et ça les aide à se rapprocher de Dieu. Et chers frères et sœurs, tout est bien. Toutes ces choses-là, c'est bien. Nous devons prier ardemment. Nous devons étudier la Bible. Nous devons rechercher Dieu. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Mais avant tout, chers frères et sœurs, c'est une question d'attitude. Notre attitude nous aide beaucoup. Souvent, nous sommes chrétiens de lèvres. On dit de bonnes choses, on s'exprime, mais notre cœur n'est pas très proche de Dieu. Et je m'explique. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont de vrais amis de Dieu quand tout va bien pour eux dans leur vie. Quand tout se fonctionne bien et quand tout est bien pour eux, bon, maintenant ils sont chrétiens. Ils aiment Dieu, ils font tout pour servir Dieu. Alors quand vient les échecs, quand viennent les déboires, quand viennent les déceptions, et ça c'est différemment. Vous savez, hier soir j'ai eu le temps d'écouter l'émission télévisée de Monsieur Weston. Dans cette émission, il a fait le bilan de ce qui s'est passé, les tragédies de l'année 2021 et aussi des années antérieures. Et aussi, il fait des projections de ce qui va peut-être affecter l'année 2022. Et à la conclusion de son émission, il a fait cette remarque que les choses ne vont pas s'arrêter avec l'année 2021. C'est-à-dire les défis que nous avons, les problèmes que nous confrontons ne s'arrêtent pas avec la fin de l'année 2021. Et par contre, selon les Écritures, cela va être empiré dans les années à venir. Vous et moi, et le reste du monde, nous sommes des êtres humains. Nous avons de bonnes intentions. Mais malheureusement, nous sommes impuissants en ce qui a trait aux événements, en ce qui a trait à ce qui nous bouleverse dans notre vie physique. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, comme je vous ai dit et je vous ai posé la question, vous sentez-vous proche de Dieu? Parce que sans avoir une relation étroite avec Dieu, sans avoir Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, vous et moi, nous serons comme les gens de ce monde. Parce que le monde n'a aucun espoir. Le monde cherche le bonheur dans des choses vraiment qui sont futiles, des choses qui ne peuvent vraiment pas contribuer à leur bonheur. En premier lieu, chers frères et sœurs, nous devons chercher à comprendre qui est Dieu. La plupart du temps, il attend les gens m'appellent pour être conseillé. Je les pose toujours cette question. Avez-vous la crainte de Dieu? Vous savez, la Bible, notre Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. En d'autre part, il y a une autre traduction qui a dit que la crainte de Dieu est le commencement de la science ou de la connaissance. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous basons notre futur sur Dieu, sur ses promesses. Quand nous avons Dieu dans notre vie, nous n'avons aucune crainte de ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas de terreur, parce que comme le roi David l'a bien souligné dans ses psaumes, il a dit: Dieu, tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Et tous, vous vous rappelez le psaume 23. C'est que nous sommes des brebis. Le roi David s'est décrit lui-même comme étant un brebis, alors que Dieu est son berger. Il suit Dieu partout où Dieu lui-même. Et c'est une attitude. C'est pas quelque chose vraiment qu'on peut expliquer au monde. Et parce que pour le monde, ça ne serait ça ne ferait aucun sens. Mais pour nous, si nous avons cette attitude que Dieu est avec nous, c'est Dieu qui nous mène, nous sommes un brebis. Et comme le Christ, quand ses disciples se disputaient entre eux, qui est le plus grand, il a placé sur ses genoux un petit enfant. Il a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, par aucun moyen, vous entrerez dans le royaume de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés. Dieu vous a appelés, Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de célébrer ce jour de sabbat. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné sa connaissance. Dieu nous a fait des promesses, les promesses de prendre naissance dans sa famille, les promesses de vivre éternellement et aussi de diriger avec son fils et d'hériter toutes choses avec son fils. Et nous sommes certains de ces promesses-là. En même temps, Dieu nous a fait des prophéties, des choses qui vont secouer le monde entier, des événements qui vont secouer le monde, comme vous l'avez bien écouté dans l'émission de M. Brochu, en guise de sermonnette, c'est que le monde va affronter, le monde va confronter des moments terribles, des moments vraiment difficiles. Et déjà, beaucoup d'entre nous, on commence à vivre certaines choses. Je me rappelle, il y a deux semaines de cela, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui était mon condisciple. Nous étions condisciples. Nous avions vécu notre jeunesse ensemble. Et je me rappelle quand nous étions jeunes, nous étions enfants, et souvent nous parlions de notre avenir. Nous avions discuté notre avenir, des plans que nous avions. Et alors que maintenant, mon ami, lui, il a pris sa retraite il y a 2 ans de cela. Il a des enfants, des petits-enfants. Et pour lui, le monde est transformé. Le monde que nous connaissions lors de notre enfance, ce monde est disparu. Il y a maintenant plus d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de souffrances dans notre monde. Alors que quand nous étions enfants, la vie était vraiment magnifique. Nous faisions des rêves, nous avions pensé à notre futur, à notre avenir, qui pour nous paraissait vraiment beau. Alors, mes chers frères et sœurs, notre monde est bien différent. Et le monde, et comme l'a bien souligné M. Weston dans son émission télévisée, le monde va connaître des moments difficiles, des moments pénibles. Vous savez, dans notre Bible, dans l'Apocalypse, la Bible mentionne que le jour viendra où les hommes chercheront la mort. Les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. Chers frères et sœurs, c'est vraiment terrible de penser à ce genre de choses. Parce que je me rappelle, travaillant à l'hôpital et en travaillant comme médecin, à chaque fois qu'un patient vous a vu, en tant que médecin, ce patient-là est réconforté parce que ce patient pense que bon, le médecin peut contribuer à sa santé, peut contribuer à son bien-être, l'aider à recouvrir sa santé et l'aider à améliorer sa douleur. Il pense toujours que bon, et le médecin a une solution pour l'aider dans ses souffrances. Alors, que chers frères et sœurs, et pour savoir que les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux, c'est vraiment difficile à comprendre. Et c'est la vérité parce que la Bible l'a dit. Et la seule chose pour nous, la seule différence pour vous et moi, c'est que nous avons cette confiance. La confiance que notre Dieu, notre Créateur, notre Père Céleste ne nous abandonnera jamais. Malgré les circonstances, malgré les défis, malgré les troubles, notre Père Céleste nous aime. Il a un amour qui est sans mesure. Et cet amour-là sera toujours notre bouclier. Cet amour, l'amour de Dieu, sera toujours notre protection. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons chercher à comprendre qui est Dieu. Si vous ne savez pas qui est Dieu, je vous exhorte à prendre du temps, à non seulement à lire, mais à étudier votre Bible pour voir comment Dieu a agi dans les temps anciens, pour voir comment Dieu a intervenu dans la vie de certaines personnes de la Bible, comment Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël, comment Dieu a travaillé avec nos patriarches, comment Dieu a travaillé avec les apôtres, avec Jésus-Christ lui-même. Nous devons comprendre qui est Dieu. Nous devons comprendre sa majesté. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu, c'est lui qui a créé l'océan, le vaste océan. C'est lui qui a créé le firmament. Lorsque vous êtes réveillé le matin, vous regardez le ciel bleu, vous regardez les nuages, vous regardez le soleil qui se montre, le lever du soleil qui se lève, le soleil qui se lève. Pensez à Dieu. Pensez que c'est Dieu dans sa majesté, dans sa grandeur qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé les arbres, tous les arbres verts que nous voyons, les fleurs autour de nous, les oiseaux qui chantent et les oiseaux que parfois nous avons vraiment nous savons comment contrôler, comment et compter les oiseaux du ciel, les oiseaux du champ. Ils sont si nombreux, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés. C'est Dieu qui a créé ces oiseaux-là. C'est lui qui a tout créé. C'est la puissance de Dieu. C'est par sa puissance que vous et moi sommes en vie, que nous respirons. Vous savez, notre corps physique, là encore, c'est un phénomène que vous et moi, nous ne pouvons pas expliquer. Notre cœur, le rythme de notre cœur qui bat et qui pompe le sang dans nos veines, dans nos artères, et on ne peut pas comprendre tout cela. Comment Dieu a permis que le cœur pompe le sang avec l'aide de l'oxygène, alors que le cœur a de l'électricité. C'est un cœur, c'est un moteur vraiment dynamique que personne, aucun savant ne peut vraiment s'expliquer. Alors que Dieu, c'est lui qui a tout fabriqué. Quand nous voyons que nos poumons qui régénèrent le sang et veineux pour donner à nos artères un sang pur, parce que nous avons deux qualités de sang. Nous avons le sang veineux qui est noir parce que ce sang est contaminé avec l'oxyde carbonique, le gaz carbonique, alors que le sang artériel qui est pur, rempli d'oxygène, et maintenant qui va parcourir notre corps. Et quand nous respirons l'oxygène pour alimenter notre sang, pour purifier notre sang. Alors que Dieu, lui, il a tout façonné, il a tout mis pour notre bien-être. Et notre cerveau, lui, maintenant qui est notre quartier général, notre cerveau qui prend des décisions, c'est le cerveau qui dit au pied de marcher, c'est le cerveau qui dit à ma main, ok, fais des gestes. C'est le cerveau qui dit à mes yeux de regarder l'écran. C'est le cerveau qui dit à ma bouche, à mes lèvres, toutes les paroles qui sortent de mes lèvres, c'est le cerveau. Ça, c'est le quartier général. C'est le centre et de nos pensées. Et voilà, Dieu, lui, il est grand, il est merveilleux. Vous devez, chers frères et sœurs, je vous commanderai de prendre du temps de réfléchir sur ce Dieu que cet être que vous appelez votre Dieu. Et Dieu est votre Dieu quand vous lui donnez la première place dans votre vie. Quand vous dites à vous-même, maintenant je ne veux plus penser pour moi-même, je ne peux pas décider pour moi-même, je laisse le soin à mon Créateur, je laisse ce soin à mon Père, maintenant il est votre Dieu. Et maintenant, vous l'adorez. L'adoration, c'est de mettre Dieu en première place, de lui donner la première place dans notre vie, de lui donner la première place avant nous-mêmes, de lui donner la première place avant tous nos amours. Voilà pourquoi le Christ a dit, aimez, il faut haïr votre maman, de haïr votre papa, de haïr votre époux, votre épouse, d'haïr vous-même votre vie. Parce que à ce moment-là, vous donnez à Dieu la première place. Quand vous avez Dieu en première place, et toute chose est secondaire. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, rapprochez-vous de Dieu. Et nous devons savoir que la création tout entière demande un créateur. Et ce créateur est Dieu. Et c'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu en qui nous mettons notre espérance. C'est en ce Dieu que nous mettons toute notre confiance. C'est en ce Dieu que nous servons. Et ce Dieu-là nous donne sa parole. Ce Dieu nous donne ses instructions que nous devons suivre. Si vous pouvez tourner votre Bible, les pages de votre Bible, à Deutéronome. Lisez avec moi Deutéronome au chapitre 4, verset 29. Nous comptons à Deutéronome au chapitre 4, verset 29. Je lis. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Chers frères et sœurs, c'est vraiment, je dirais, la phrase en latine, sine qua non. C'est sine qua non pour vous et moi de rechercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Et chers frères et sœurs, cela ne se fait pas avec les lèvres. Cela se fait avec le cœur. Cela se fait avec le centre de notre pensée. Notre glande notre sens, notre cerveau. Chers frères et sœurs, c'est notre attitude. Nous devons avoir une attitude constante et on ne peut pas avoir cette attitude aujourd'hui et puis demain, bon, on change. On ne peut pas rechercher Dieu et hier et puis maintenant, selon les circonstances, on se dit, ah bon, maintenant je suis trop occupé avec mes affaires, je ne peux pas chercher Dieu. Et malheureusement, la plupart des gens, ils sont des gens, je dirais, émotionnels. Ils laissent leurs émotions les guider. Ils sont avec Dieu quand tout va bien, mais quand vient peut-être une maladie, quand vient peut-être des sentiments de doute, des sentiments d'amertume, des sentiments de colère ou de découragement, bon, maintenant, Dieu n'est plus là. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu a dit aux Israélites de lui chercher de tout leur cœur. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, nous qui sommes sortis d'Égypte spirituellement parlant. Dans peu, dans quelques mois, au mois d'avril, le 14e jour du mois d'avril, au soir, avril 14, vous et moi, nous allons renouveler notre engagement, l'engagement que nous avions pris lors de notre baptême. Et à ce moment-là, nous avions pris la résolution de laisser l'Égypte, de partir, de sortir l'Égypte. Et nous avions les yeux fixés sur le monde de demain, le monde à venir. Ça, c'est la terre promise, comme les Israélites ont les yeux fixés sur la terre du Canaan, la terre promise, en sortant d'Égypte. Vous savez, chers frères et sœurs, les Israélites ont pris avec eux ce qu'ils devaient laisser derrière en Égypte, c'est-à-dire le paganisme, les mauvaises voies, la désobéissance. Autrement dit, ils ont pris l'Égypte avec eux, tout en quittant l'Égypte. Et c'est ainsi, s'il en est ainsi en ce qui me concerne, nous ne pourrons pas nous approcher de Dieu. Chers frères et sœurs, si en quittant le monde, en quittant l'Égypte, vous avez encore l'Égypte dans votre cœur. Par exemple, les deux dernières semaines, je le disais même bien avant, le monde était très excité à célébrer la fête de Noël, le jour de l'an, tout ce qu'on voyait à la télévision, et même aujourd'hui encore, c'était des commerçants qui voulaient vous vendre les choses, ils parlaient de « ok, il faut aller faire des emplettes, acheter ceci, acheter cela, échanger les cadeaux et tout cela ». Et partout dans le voisinage, il y a des lumières, il y a des arbres à pain, partout, des guirlandes, tout cela. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Pensons-nous maintenant, ah bon, je me rappelle les bons vieux temps, lorsque on célébrait encore la Noël avec nos amis et nos parents. Et puis maintenant, c'est de la nostalgie. Avez-vous de la nostalgie? Des choses mondaines, des choses de ce monde. Faites-vous encore des compromis avec le monde? Et la plupart du temps, les gens viennent auprès de moi et me disent, comme c'était le cas d'hier, il y a des gens qui me disent, ah bon, bonne fête, bonne année, mes meilleurs voeux, bon, avec un sourire, avec beaucoup de politesse, et j'ai dit merci, et puis c'est tout. Sans dire pareil, sans dire ok, réciproque, parce que bon. Il faut avoir de la politesse. Je ne veux pas froisser les gens, je veux pas être rude, et pour les dire bon. Vous savez que c'est une fête païenne, Noël est une fête païenne et vous, c'est pas leur moment, c'est pas leur temps. Mais en ce qui nous concerne, chers frères et sœurs, nous devons laisser l'Égypte, nous devons sortir du monde, nous devons faire de tout notre mieux. Sans quoi, chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas nous approcher de Dieu. Notez encore ce que Dieu nous dit dans 2 Chroniques au chapitre 2, au chapitre 15, verset 2. Reportons-nous à 2 Chroniques au chapitre 15. Chroniques, ça vient après roi. Vous avez 1 Chronique et puis 2 Chronique au chapitre 15, au verset 2. Et Azaria, alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Au verset 3 de ce même chapitre, de Chroniques chapitre 15, au verset 3, « Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni roi. » Verset 4, « Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » Vous savez, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu quand ils ont des défis, quand ils font face à des situations difficiles. Alors que, chers frères et sœurs, nous devons nous rapprocher de Dieu pendant que nous ayons le temps, pendant que le temps est propice, pendant que tout est bien pour nous. Ici, nous voyons que le peuple d'Israël, à un moment, ne cherchait pas Dieu. Ils n'avaient pas Dieu avec eux. Il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de loi. Mais au sein de leur détresse, maintenant, leur détresse, les épreuves, les aident à retourner vers Dieu. Et Dieu est miséricorde, est miséricordieux. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. C'est comme nous. Que faut-il changer dans notre vie? Maintenant que, comme le monde, les gens du monde prennent des résolutions. Ils prennent des résolutions. Ils veulent changer leur vie. Ils cherchent, comme on dit, un aller mieux. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Que faut-il changer dans notre vie? Vous et moi, et je suis confident, je suis conscient qu'on peut avoir une liste assez longue des choses qu'on devrait changer, surtout sur le plan spirituel. Mais, chers frères et sœurs, il y a une chose. Et cette chose est très simple. Tout ce qui nous sépare de Dieu, nous devons abandonner. Nous devons abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu, y compris nos mauvais désirs, nos sentiments de convoitise, bref, le péché, et aussi le rancœur, l'animosité, les doutes, tout ce qui sont des points d'achoppement, des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, des choses qui nous barrent le chemin entre nous et Dieu. Vous savez, je me rappelle, et c'était en 1980, je ne me souviens pas exactement l'année, mais Monsieur Herbert Armstrong a écrit un article, et dans son article, il a défini la vie physique, les choses qui nous entourent. Parfois, c'est comme une muraille qu'on dresse devant Dieu. C'est que quand on dresse une muraille devant Dieu, maintenant, on ne peut plus voir Dieu. On voit les choses, on voit ce qui est devant nous. Et maintenant, nous sommes séparés de Dieu. Il ne doit y avoir aucune muraille, même quand que cette muraille est fabriquée de verre, parce que si cette muraille est fabriquée de verre, on peut voir Dieu, on peut penser à Dieu, mais on n'entend pas Dieu. Il n'y a pas de communication. C'est comme si, et je me rappelle, il y a une semaine de cela, j'étais allé et à un bureau, et puis il y avait une muraille de verre, alors que cette personne me regardait, je parlais à cette personne ne pouvait pas m'entendre. Alors c'est ici, et nous devons nous débarrasser de nos murailles. Reportons-nous à Ésaïe, ce que Ésaïe a déclaré au chapitre 59, les versets 1 et 2. Dans Ésaïe, au chapitre 59, au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Chers frères et sœurs, nous dans l'Église, nous ne péchons pas volontairement, mais parfois nous succombons à notre nature charnelle. Ce faisant, nous séparons de Dieu. En réalité, rien ne doit nous faire douter de Dieu, de sa puissance, de son amour pour nous. Nous devons avoir une assurance absolue qu'avec son aide, nous nous dirigeons vers la victoire, sans aucun doute, sans crainte, plein de courage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de nous réjouir sans cesse, d'être toujours joyeux. Parfois, on peut se poser la question, mais être joyeux, avoir la joie dans le cœur, pourquoi? Parce que, bon, la vie, le coût de la vie est tellement difficile et les nouvelles sont mauvaises. On a de l'incertitude, il y a la crainte hein, du lendemain, on a tellement de craintes, tellement de choses. Et, chers frères et sœurs, parce que notre confiance est en Dieu. Nous savons, avec Dieu, notre victoire est certaine. Voilà pourquoi nous faisons de notre mieux, pour nous débarrasser des doutes, des craintes, et d'être plein de courage. Notez ce que l'apôtre Paul déclare dans Romains, au chapitre 8, versets 33 à 39. Nous portons-nous à Romains, au chapitre 8, versets 33 à 39. Romains au chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous devons contrôler nos pensées, contrôler nos sentiments, ne pas succomber à nos émotions. Comme le Christ nous a montré, nous devons faire du bien autour de nous, aider notre prochain. Une chose est certaine, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et une seule Église. Il y a des gens parfois qui pensent qu'il y a des églises. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous devons savoir que sommes-nous vraiment de l'Église de Dieu? Appartenons vraiment? Si vous êtes appartenu à Dieu, vous êtes dans son Église. Si vous êtes proche de Dieu, vous êtes dans son Église. Vous faites partie du corps du Christ. Reportons-nous à Éphésiens au chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 6. Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous voyez ici, vous voyez l'accent que l'apôtre Paul a mis. Vous supportant les uns les autres avec charité, l'amour. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a pas deux espérances, il n'y a pas trois espérances, il n'y a qu'une seule espérance. Verset 5, il y a un seul Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une seule foi, ça c'est cette même foi, qui se trouve dans Hébreux au chapitre 11. Si vous avez cette foi, vous pouvez vous mettre dans la même catégorie d'Abraham, de David, d'Isaac, de Jacob. Et si vous êtes, quand vous êtes allé vous reposer, bon, vous serez parmi le nombre. Une seule foi. Un seul baptême. Quand vous vous êtes baptisé, vous avez pris la décision de vous repentir de vos péchés. Vous avez pris l'engagement d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel et vous avez pris la décision de mourir selon les rudiments de ce monde, selon les choses de ce monde. Et vous avez dit à Dieu, Dieu dès maintenant, je veux vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Ça, c'est le baptême. Au verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà pourquoi vous êtes mes frères. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous avons un seul Père. Il n'y a pas deux Pères. Vous n'avez pas un père et puis, bon, moi j'ai... Non, nous avons un seul père. C'est Dieu qui est notre père. Nous devons nous efforcer de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner, même s'il y a des différences entre nous. Nous faisons de notre mieux pour arranger les choses, pour nous pardonner les uns les autres. Mais direz-vous, pourquoi tout ce mal autour de nous? Ces malheurs, ces guerres, ces souffrances. Nous savons que tout cela est le résultat du péché. Il y a une puissance qui nous pousse à nous éloigner de Dieu, à commettre des péchés. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nos frères qui sont exposés à des dangers chaque jour, des dangers quotidiens. Et nous devons nous rappeler et à prier pour eux. Nous devons les et demander à Dieu de les protéger, de les garder. Et les gens qui, partout dans le monde, qui sont exposés à des violences, à des guerres, à des famines, tout cela. Nous devons prier constamment, nous devons penser à eux. Et nous savons que, comme je vous ai dit, les souffrances, la guerre, ce qu'on voit, ça c'est le résultat du péché. La puissance qui essaie de faire de nous décourager, de nous éloigner de Dieu, et même à même commettre des péchés. Reportons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 6. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, verset 1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Au verset 2, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'y a pas encore connu comme il faut connaître. » Verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Verset 4, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Verset 5, « Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Chers frères et sœurs, c'est ici une vérité que beaucoup de gens ignorent. Le monde où nous vivons est actuellement sous la puissance de Satan. Satan, au commencement, c'est-à-dire avant la création des êtres humains, était un archange qui régnait sur cette terre. Il régnait au-dessus des anges. Il a été victime de sa propre ambition. Il voulait être égal à Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour nous débarrasser de notre orgueil. Parce que l'orgueil vient de Satan. Satan continue à promulguer son orgueil. Il continue à nous inculquer de ses sentiments orgueilleux. Avant que Satan, Lucifer, devenait et Satan, Lucifer était un archange. Il était très intelligent. Il avait une beauté vraiment remarquable. Et mais Satan, Lucifer, a laissé l'orgueil envahir son cœur. Et maintenant, il est devenu Satan, l'adversaire, le diable. Et il continue à nous influencer. Parce que Satan voulait être égal à Dieu. Reportons-nous à 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, pour voir l'illustration de ce que je vous dis, ou illustrer ce que je vous dis. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul, qui nous parle ici, il a dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Ah, je suis dans Éphésiens. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, « Mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ici, nous parlons que Satan est le Dieu de ce siècle. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, et dans toutes ces festivités de ces dernières semaines, la Noël, le jour de l'an, et même encore cette semaine qui vient, et le reste de l'année, les gens qui vous parlent des choses politiques, toutes ces choses-là sont influencées par Satan. Satan est leur Dieu. Quand il y a l'orgueil, quand il y a la division, quand il y a la discrimination de toutes sortes, quand il y a des viols, des meurtres, tout cela vient de Satan, Satan le diable. Ce qui nous fait croire, cela nous fait croire parfois qu'il y aura des dieux sur cette terre. Regardez, bien que l'éternel Dieu permettra à Satan d'être encore en puissance sur cette terre, Satan ne peut absolument rien faire sans la permission de Dieu. Vous comprendrez cela beaucoup mieux en lisant le livre de Job. Prenez du temps lire, étudier le livre de Job, pouvoir comment Satan a essayé d'attaquer Job. Mais à la fin, Job a été vainqueur. Il a été victorieux parce que Dieu, notre Créateur, était son Dieu. Dieu a permis à Satan de l'attaquer. Mais Dieu, à la fin, Job a gardé une attitude positive, Et à la fin, il a dit, Dieu, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et chers frères et sœurs, chacun de nous doit avoir cette même expérience. Nous devons savoir vraiment que Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais je t'ai vu, j'ai une relation avec toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. Je n'ai rien à peur. Je n'ai aucune crainte parce que tu es avec moi. Tu es mon Dieu. Chers frères et sœurs, je répète que Satan n'a aucune puissance autre que l'Éternel Dieu lui apporte. Si Dieu permet à que je sois mort, quelqu'un me tue, quelqu'un quoi que ce soit, bon, ça c'est à Dieu. Dès que je dois être prudent, je dois utiliser la sagesse, mais ma vie est entre les mains de Dieu. Ne craignez donc pas Satan. Ne succombez pas à ses tentations et à ses mensonges, comme succombèrent le premier couple. Savez-vous comment Satan agit au milieu de nous, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu? Nous connaissons la vérité. Il ne peut pas nous séduire, mais il peut agir sur nos sentiments de convoitise, sur notre orgueil, ou tout simplement en sèmant de doutes et de rumeurs au sein de l'Église. Reportons-nous à Apocalypse, au chapitre 12, versets 9 et 10. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Révélation. Apocalypse au chapitre 12, nous commençons au verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà ce que Satan fait. Et pleinement. Ça, tout son travail à plein temps. De nous accuser. Accuser les frères jour et nuit. Chers frères et sœurs, je vous conseillerais de lire les psaumes. Ils sont pleins d'encouragement. Ils nous font voir comment nous approcher de Dieu et rester ainsi proche de lui. Notez par exemple ce que David écrit au sujet de Dieu et de ses œuvres. Et aussi les œuvres de Satan. Dans Psaume 115, versets 1 à 8. Nous portons à Psaume 115. Psaume 115, verset 1. Non, pas non, l'Éternel. Non, pas à non. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Verset 5. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des oreilles et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Verset 7. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. verset 8, il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Il faut comprendre les attaques de Satan, chers frères et sœurs. Il faut reconnaître que les attaques de Satan, avec la permission divine, peuvent être fortes. Reportons-nous à 1 Pierre, au chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8. Soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le secret est donc de rester toujours proche de Dieu, de ne pas se décourager, de ne pas craindre Satan, de ne pas se sentir abandonné. Nous devons fuir le péché avec avoir notre cœur dans les promesses divines et accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ne pas nous laisser séduire. Le Christ a dit dans Jean au chapitre 6, versets 43 et 45. Dans Jean au chapitre 6, verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Au verset 45, car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Et ailleurs, il déclare dans Jean au chapitre 15, allons à Jean au chapitre 15, lisons les versets 16 et 17. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nos yeux doivent être toujours sur le Christ, car il a donné sa vie pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Le Christ est le chemin. Reportons-nous à Jean au chapitre 14, verset 6. Jean au chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous pouvez lire aussi Jean au chapitre 10, versets 7 à 15. Vous pouvez écrire ça dans vos notes. Que le Christ est la porte et il est le bon berger. Nous devons nous laisser conduire par lui, marcher avec lui, le laisser nous guider en toutes choses. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous ne savons même pas comment prier. Mais, vous savez, chers frères et sœurs, nous devons nous reposer sur Dieu. Nous devons lui chercher. Vous savez, même les apôtres ne savaient comment prier. Ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Et le Christ incitait même pour nous dans nos prières. Nous pouvons, reportons-nous à Romains, au chapitre 8, versets 26 à 28. C'est bon pour nous de lire ces choses-là, chers frères et sœurs. Romains, au chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Je vous ai dit que la Bible nous enseigne la voie à suivre, la voie d'amour, la voie d'humilité. Comme le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe au chapitre 55, versets 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » À travers la Bible, les prophètes nous ont montré comment nous approcher de Dieu. Ils nous ont donné l'exemple. Ils ont suivi le chemin que le Christ leur a indiqué. En fait, dans un seul verset, le prophète Michée nous dit comment nous approcher de Dieu et rester solidement à ses côtés. Reportons-nous à Michée au chapitre 6, verset 8. Michée au chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce chers frères et sœurs, nous devons nous examiner nous-mêmes. Où en sommes-nous à cet égard? Cherchons-nous Dieu de tout notre cœur? Reportons-nous à Psaume 55, au verset 18, lisons les versets 18 et 19. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tout ce qui l'invoque, de tout ce qui l'invoque avec sincérité. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ils entendent leurs cris et il les sauve. Quelle puissance! Quelle promesse! Quel soulagement! À travers la Bible, Dieu nous montre la différence entre la vie et la mort. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et aux Israélites, au peuple d'Israël, il a dit dans Deutéronome au chapitre 30, versets 15 et 16, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Au verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il est certain que nous avons des épreuves en ce bas monde, des difficultés à supporter. Mais rien ne doit nous éloigner du chemin que le Christ a mis devant nous. Aucun prophète n'a jamais été sans faire face à des attaques, à des persécutions, même à des maladies. Nous avons besoin d'avoir foi en Dieu, foi en sa divinité. Lisez les persécutions par lesquelles l'apôtre Paul a passé. Il a tenu bon. Comme tous ceux qui sont mentionnés dans Hébreux 11, notez-le comme le courage d'Abraham. Hébreux 11, au chapitre 8, au chapitre 11, excusez. Hébreux chapitre 11, versets 8 et 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir l'héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, et l'apôtre Paul nous indique comment nous approchons de Dieu. Lisons, continuons dans Hébreux et au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 25. Hébreux au chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Chers frères et sœurs, nous devons examiner, nous devons voir comment le Christ a joué un rôle dans notre vie, notre communion les uns avec les autres. C'est par lui, notre Créateur. Dernier verset, reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 5, versets 1 à 5. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, de laquelle nous demeurons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même de les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers frères et sœurs, notre but en ce bas monde doit être de nous rapprocher de Dieu chaque jour davantage, tenir la main du Christ et marcher avec lui, ayant toujours les yeux sur la promesse de la vie éternelle.